parole du jour avec le Père Willem.
Résurrection sur le monde et pour tout être humain. On peut tout à fait lire l'Évangile comme une enquête policière, mais c'est à la condition de découvrir que sa structure est plus surprenante qu'un roman d'Agatha Christie ou même que l'Œdipe roi de Sophocle. Dans la célèbre tragédie grecque, Œdipe mène l'enquête et à son terme découvre que le criminel n'est autre que le détective, c'est-à-dire lui-même. Le lecteur reste toutefois innocent, épargné, au moins jusqu'à l'arrivée du psychanalyste qui essaiera de le persuader qu'il est Œdipe lui aussi. L'Évangile n'a pas besoin de recourir au stratagème freudien. Il suffit de le lire, même pas entre les lignes. Il suffit de le lire pour s'apercevoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, comme le dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, et que par conséquent, derrière Pilate, la foule des Juifs, les grands prêtres, ben, il y a moi. C'est-à-dire vous aussi, chers auditeurs et auditrices, et que ceux-ci sont pour nous comme autant d'instruments ou de collaborateurs dévoués. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Elle se compose d'un second volet, lequel semble ne relever de la compétence d'aucun service existant à ce jour dans la police, même si certains ne manqueront pas de croire que la brigade criminelle, celle des stupéfiants, ainsi que celle de la répression du proxénétisme, pourraient s'y attaquer ensemble. En tout cœur, si une telle brigade venait à naître, elle aurait pour sainte patronne Marie de Magdala. C'est elle qui porte spécialement le second volet de l'affaire. Le mystère du tombeau vide, bien plus mystérieux que celui de la chambre jaune, car après le meurtre, dont le cas est rapidement résolu, vient la résurrection, dont l'événement est assez rare pour déconcerter aussi bien Sherlock Holmes qu'Hercule Poirot, et son énigme est la suivante. Où se trouve désormais le corps du Christ? Où se trouve-t-il? Qu'est-il devenu? Comprenant qu'il ne s'agit pas seulement de le revoir après le constat du tombeau vide, mais de savoir où il réside à cette heure après l'ascension. Où peut-il résider? Est-ce parmi les étoiles, entre la grande ours et le petit lion? Est-ce plutôt dans le tabernacle de l'église du quartier? Le credo déclare, sans aucune connotation politique, qu'il est à la droite du Père. Mais où est-elle donc cette droite qui n'est pas la mienne et qui veut aussi bien se trouver à ma gauche? À première vue, Marie-Madeleine passe à côté des indices les plus flagrants. D'abord, elle voit et entend deux anges et cela n'éveille en elle aucun soupçon. Les créatures célestes ne retiennent pas plus son attention que deux figurants à l'arrière-plan de la grande scène d'amour. Ensuite, alors qu'elle devrait tout de suite procéder à un interrogatoire en bonne et due forme, afin d'avoir un début de piste, elle reste muette. Et c'est elle qui se laisse interroger finalement. « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Ah, les anges sont manifestement plus intéressés à elle qu'elle ne l'est à eux. Enfin, voici que Jésus paraît, elle tombe sur celui qu'elle cherche. Et au lieu de le reconnaître sur le champ, elle le prend pour le jardinier du coin. Pire encore, pour le suspect numéro 1. Si c'est toi qui l'as emporté, eh bien dis-moi où tu l'as mis. Il arrive parfois qu'à force de culbuter, on retombe comme un chat sur ses pattes. C'est ici le cas. Marie-Madeleine s'est tellement trompée de direction que l'addition de tous ces écarts lui fait retrouver le droit chemin. Elle a raison de supposer qu'elle se trouve en face du ravisseur. C'est bien lui-même, si elle n'a pas encore saisi, que le ravisseur ne fait qu'un avec l'enlever. Comment interpréter cet aveuglement? Est-ce d'ailleurs Marie-Madeleine qui est en défaut, ou ses interlocuteurs qui la déconcertent, qui la désorientent volontairement avec un incognito mesuré? Pourquoi les anges se montrent-ils avec si peu d'ailes et d'auréoles au point de pouvoir être confondus avec des gars sans intérêt? Et pourquoi le Christ n'est-il pas rendu même reconnaissable au point d'apparaître comme le premier suspect à celle qu'il avait été si proche? Pourquoi autant de questions? Ces questions, nous les portons tous avec Marie-Madeleine. Il pourrait très bien, en disant, il aurait très bien pu faire que Marie-Madeleine ou les pèlerins d'Emmaüs l'identifient instantanément. Il a délibérément préféré jouer à cache-cache. Maintenant qu'a été traversé tout le sérieux de la croix, le Seigneur joue sur la surface de la terre et trouve son bonheur parmi les enfants des hommes, nous dit un psaume. Et voici que Jésus l'appelle par son nom, Mariam, Mariam. Et la Madeleine retrouve subitement sa place et ses souvenirs. Rabouni, Rabouni, s'écrit-elle, ses yeux dessillés par ses oreilles. Oui, ses yeux dessillés par ses oreilles. C'est le seul dialogue que l'évangéliste a voulu conserver en hébreu, Rabouni. Pourquoi tout d'un coup cette saveur locale? Est-ce pour l'exotisme? Plus certainement l'exergue. Il ne faut pas rapporter ce face-à-face en grec, il faut le mettre à part. Lui garder toute sa singularité intraduisible, rappeler ce qu'une vraie rencontre a d'insubstantiable. Ce bref dialogue résume à lui seul tous les mots que deux amoureux échangent et qui ne peuvent que sonner creux à une personne extérieure, creux et niais, et sans aucune utilité pour les progrès du savoir. Ce qui importe entre les amoureux, ce n'est pas l'information, sinon à quoi bon répéter « je t'aime », ce n'est pas le fond. « Je t'aime » ne nous explique rien et peut paraître bien présomptueux. Ce n'est plus la forme non plus, le dire en un très beau sonnet. Elle n'est pas plus beau et conduit même à s'écouter un peu trop soi-même. Mais c'est une qualité particulière, une tonalité particulière du ton. Le fait que ce « je t'aime » inassumable est adressé à toi seul, au point que l'amant peut ne pas le dire, mais seulement redire ton nom. Marie, comme dans West Side Story, « All the beautiful sound of the world » in a simple word. Single word, simply. Jean nous apprend par là ce qui ne peut rester l'objet d'un enseignement général. Marie ne répond pas « mon bien-aimé », mais elle répond « mon maître ». Or, un maître est toujours plus qu'un enseignant. Avec lui, l'amphithéâtre devient chambre haute. Le discours professoral est dépassé par l'appel à poursuivre, et nous entrons dans ce qui est tellement intime et singulier, sous la banalité même des mots, que c'est d'abord moi que cela concerne et que personne ne pourrait l'entendre à ma place. personne. L'élève se change en témoin. Ce n'est plus le seul contenu de la façon dont la contenance du maître qu'il importe de transmettre. Sa manière de vivre, et pour cela, il n'est pas d'autre possibilité que d'entrer dans cette manière de vivre à sa suite, c'est-à-dire aussi originalement que lui. Voilà la promesse de vie que nous est proposée dans la prière.